Sion de philosophie de la nature et du vivant par le père Marie-Dominique Philippe Arimaud, le 23 décembre 1994, 8e conférence.
le soleil. Dans la vie purement physique, ça n'existe pas. Alors qu'il y a un rythme du vivant. Le vivant implique un rythme. Et ce rythme, il est déjà dans la vie végétative. Un rythme vital. Et quand on est trop tendu, on n'arrive plus à dormir. C'est très curieux. Quand on cherche le sommeil, il s'en va. C'est pour ça qu'on passe des nuits terribles à chercher le sommeil. Il ne faut jamais chercher le sommeil. Il faut attendre qu'il vienne. Si vous cherchez le sommeil, vous ne le trouverez pas. Alors si vous n'arrivez pas à dormir, travaillez. C'est le meilleur système. Parce qu'il n'y a rien de tel que celui qui veut découvrir le sommeil, l'attendre, le découvrir et le chercher. Je dis en passage, il y a très peu de traités philosophiques sur le sommeil. Aristote est quand même le premier, je crois, qui a donné un traité philosophique sur le sommeil. Alors il y a Aristote avec les rêves, avec l'imagination, on va le voir ça. Parce que ça c'est le point de vue du passage de la vie végétative à la vie sensible. Les rêves, c'est pas uniquement la vie végétative. Est-ce que les animaux rêvent ? Oui, je crois, par l'imagination. Quand vous entrez dans un poulailler où toutes les poules dorment, et vous pouvez faire de pas de bruit, puis vous les voyez dormir et quelquefois être agités par des rêves. C'est curieux. Là, vous voyez, la frontière entre les deux est intéressante, du reste, parce que la marche et le sommeil, c'est bien la vie végétative, à cause du rythme, à cause du repos. C'est quelque chose qui est propre à la vie végétative. L'arbre se repose en hiver. Au rythme de notre vie. Et l'univers, la culture d'aujourd'hui. auprès de la mer, le soleil existe encore parce qu'il y a le repos de la nature, tandis que dans la ville, ça n'existe plus. C'est pour ça que ça massacre les individus, parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a le manque du sommeil, il y a le manque du repos, du vrai repos. Il y a quelque chose de très grand dans la vie végétative. Je regarde maintenant la connaissance, et la connaissance apporte avec elle ce qu'on appelle l'intentionnalité. Vous allez tout de suite comprendre. Je prends cet exemple très simple. Quand on a fait une course toute la nuit, pour des raisons multiples et diverses, on a tous fait ça dans sa vie, j'espère. Si on n'a pas fait, enfin, c'est quelque chose de faire une course toute la nuit, marcher toute la nuit. C'est bon. On a fait ça pendant la nuit, pendant la guerre. On arrive dans un petit village où il n'y a qu'une lampe allumée dans le sous-sol. Vous vous approchez, il y a une odeur délicieuse du boulanger qui fait sa première cuisson. C'est extraordinaire, surtout quand c'est une cuisson au bois. Vous avez faim parce que vous avez mangé. Il fait 5h du matin, 4h30, 5h du matin. Vous vous arrêtez, vous avez faim, vous respirez ça. Et vous prenez votre premier petit déjeuner intentionnellement. Et vous comprenez ce que c'est que l'intentionnel. En respirant cette odeur extraordinaire de la première cuisson du boulanger. Quand il fait des petits pains frais. C'est le meilleur apéritif. Ça vaut tous les apéritifs, ça. C'est extraordinaire. L'intentionnalité, là vous saisissez. C'est très très beau l'intentionnalité, momentanément. Si on vous dit, vous avez pris votre petit déjeuner ce matin, intentionnellement, c'est suffisant, vous ne le prendrez pas, vous direz, non, pas du tout. Je veux manger. Et la mendication n'est pas l'intentionnalité, puisque c'est quelque chose de réel comparativement à l'intentionnalité. Donc vous voyez qu'avec la connaissance, je dis ça, c'est parce que ça c'est capital. C'est ce que l'idéalisme oublie. L'idéalisme pense que l'intentionnalité c'est le réel. C'est pour ça qu'on dit les philosophes ils perdent la tête. Ben oui, parce que la plupart du temps, on l'a dit. Heidegger l'a dit, la philosophie européenne, ce sont des gloses autour de Platon. J'aime beaucoup ça. Toute la philosophie européenne est platonicienne, idéaliste. Et c'est vrai que la plupart des philosophes sont idéalistes. Alors pour eux, ils commencent par l'intentionnalité, les idées, pas le petit déjeuner. Si c'était le petit déjeuner, ça irait encore. Parce que il comprendrait que cette odeur magnifique qu'on respire réclame le vrai petit déjeuner où l'on mange. On respire encore la bonne odeur du café ou du thé qui s'ajoute. Et puis les petits pains une intentionnalité qui est la plus réaliste qui soit. C'est pour ça que le jugement d'existence implique le toucher. Tant que vous n'avez pas touché quelque chose, vous ne savez pas si ça existe vraiment. Et les soucoupes volantes, à un moment donné, on en parlait énormément. Ça m'intéressait de suivre cela. Et alors, on cherchait, est-ce qu'on les a touchées? Jamais. peu. Alors, ce qui est très intéressant à faire, étant donné que les sensibles propres, donc, caractérisent le lien entre ma connaissance, ma sensation,
donc
c'est quelque chose de radical et de foncier, ça. Alors, j'indique cela parce que je crois que c'est intéressant. Parce que nos cinq interrogations, j'ai dit Aristote, mais c'est pas suffisant. Pourquoi Aristote? C'est que le premier philosophe qui comprend que mon intelligence est dépendante dans la croissance, dans sa croissance des sens, de l'expérience, et que j'ai besoin de renouveler tout le temps, ma vie intellectuelle par mes sensations externes. Et comme les sensations donnent cinq contacts différents avec la réalité, c'est normal que mon intelligence elle-même prenne ses plis. Donc là, il y a tout un problème extrêmement intéressant au point de vue de la philosophie du vivant. Et pourquoi les cinq sens? Comment ça se fait qu'il y a cinq sens? Et les cinq sensibles propres? Les sensibles communs, ce sont ceux qui peuvent être touchés par les différents sens. Il y a le mouvement. Quand vous voyez un avion bouger dans l'air, vous le voyez, vous l'entendez.
Intentionnellement et
ça, c'est les poètes aiment énormément de voir qu'on passe de tel sensible à tel autre sensible, tel sensible évoque un autre sensible. Il y a des liens entre les différentes sensations, ça c'est évident. Vous voyez Proust, Proust fait ça admirablement, la Madeleine, on voit très bien. Il y a des analogies comme ça. Et c'est pas, il va avoir des analogies. L'analogie, c'est parce que il y a cinq sensations différentes et toutes les cinq sont une. Et donc il y a des harmonies, des comparaisons, des proportions entre eux, des sensibles. Je passe à l'image. L'imagination, qui est le domaine de la représentation. Vous ne vous représentez pas par les sensations. Les sensations, je connais par la vue, mais c'est pas la vue qui représente. La vue voit, le toucher touche, l'ouïe écoute, l'audition, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui représente? C'est l'image. Je suis capable de former des images. Et c'est le premier moment de l'autonomie. L'autonomie du vivant. C'est grâce à ces représentations. Je décolle. Tant que je touche, tant que je vois, je suis en dépendance du milieu. Un peu, mais elle est là. Et quand la réalité disparaît, les sensations disparaissent. Tandis que, et c'est pour ça que je peux arriver à essayer de faire un vide, c'est un faux vide, mais je peux arriver à faire un vide des sensations. Tandis que lorsque je me représente quelque chose, c'est au-dedans de moi-même que je forme l'image. Un monde d'images. Alors ça, c'est très important au point de vue de la philosophie du vivant, parce que c'est le premier moment de l'immanence absolue. Je suis libre par rapport à toutes mes sensations antérieures. Vous voyez, je ferme mes yeux et je suis dans un monde d'images. Sensations, je suis dans un monde d'images. Je rêve. Les rêves, c'est un monde d'images. C'est une sorte d'intériorité. C'est une fausse intériorité. Mais c'est quand même une intériorité. Puisque je suis coupé du milieu dans lequel j'ai contact et je m'enferme dans mes images. Et j'essaie d'unir les images avec les images, de faire un jeu d'images. C'est ça la représentation. Et ça nous, ça nous prend très fort. Nous sommes une culture d'imagination. Ça, c'est tout à fait. Or, l'image est de l'ordre intentionnel. L'image est intentionnelle. Elle n'existe que dans mon imagination. Je m'imagine le fameux exemple que prenait toujours au Moyen-Âge pour l'image. La montagne d'or. Je m'imagine une image, une montagne d'or. Je m'imagine des mythes. Des hommes poissons. Des hommes lions. Et c'est très enraciné en nous. Faut pas oublier qu'on a essayé, c'est terrible, on a essayé de voir si c'est réel ou pas. On a essayé de faire. quotidienne à New York. Oui, encore avant que je puisse voir. Le conditionnement était très très fort. Et alors, il y avait des amis qui voulaient à tout prix que je la voie pour essayer de la faire sortir de son positivisme freudien. Elle est très calée au point de vue Freud, très très psychanalyste hors pair, qui a été longtemps à Paris. C'est comme ça qu'elle avait des disciples, qu'elle avait des passions.
session de philosophie de la nature et du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 23 décembre 1994, 9e conférence.
Oui, pour le positivisme, j'y reviendrai quand on sera dans l'intelligence. Réchauffer toute la semaine. Gare à l'estomac. c'est du réchauffé. Vous voyez, très très ancien. On vous fait revivre ce que vous avez vécu quand vous étiez dans sa maternelle. Alors ça, c'est... On ne sait plus très bien où on en est. Je crois réellement, on ne sait plus très bien où on en est. Vous savez, les vieux souvenirs comme ça, qu'on a d'enfants, qu'on a répétés, on ne sait plus soi-même si c'est du vécu, si c'est ce qu'on a entendu. Ça n'a pas tellement d'importance. On le revit familièrement, avec toute la famille. Familialement, on le vit ensemble. Ça fait partie d'un patrimoine familial. Alors les aînés l'ont vécu, les moins ceux, et ainsi de suite. Et les derniers, ils ont la chance d'avoir le patrimoine des aînés et leur propre patrimoine. C'est ça le patrimoine. Il y a un patrimoine d'intentionnalité qui est énorme. Qui est énorme. Et les fins de race, parce que je crois qu'on est à une fin de race, les fins de race vivent énormément du patrimoine des ancêtres. Et souvent, ils n'ont plus ça à faire. Alors, il n'y a plus rien d'original, de nouveau. Nous, on répète, on revit, on met un peu de badigeon dessus pour que ce soit original. Mais c'est très curieux, ça. Hein. Ça fait partie de la culture. Bon, alors je regarde l'affectivité. Qu'est-ce que c'est que l'affectivité ? La connaissance, c'est clair. L'affectivité, c'est jamais clair. C'est la très grosse différence. La connaissance, on le porte en soi. On porte en soi l'intentionnalité de la vision, l'intentionnalité de l'odorat. Le petit déjeuner intentionnel, je le porte en moi. Tandis que l'affectivité, toute voile dehors, on se porte vers l'autre. Ce n'est plus l'intériorité qui domine, c'est se porter vers l'autre. Vous voyez, alors l'instinct, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'instinct. Énormément, surtout aujourd'hui, surtout depuis Freud. Saint Thomas, à la suite d'Aristote, appelle ça l'appétit. L'appétit naturel. Il y a un appétit naturel à l'égard de la nourriture. À l'égard de la boisson. À l'égard de l'air. Respirer un air frais. Quand il y a du vent, comme hier au soir. Ah, enfin, on respire. C'est agréable, ça. Vous voyez, on aime ça. Normalement, parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur d'attraper des rhumes qu'il faut que tout soit fermé. Alors, il n'y a plus beaucoup d'appétit à l'égard de l'air. L'appétit à l'égard de la nourriture. L'appétit à l'égard de la boisson. Et puis alors, aujourd'hui, qui est très très développé et qu'on développe l'instinct sexuel. Oui, mais j'aime mieux appétit qu'instinct. J'ai cherché depuis assez longtemps et je demande à des gens compétents dans cette matière-là, c'est-à-dire des psychologues, à partir de quel moment on n'a plus employé appétit et on a employé instinct. C'est intéressant de voir parce que dans l'appétit, il y a le point de vue de la finalité. Dans l'instinct, il y a l'aspect subjectif. Vous voyez ? Et c'est quelque chose de naturel, l'instinct. Et l'appétit naturel, c'est on est porté vers. Porté vers un bien sensible. Respirer l'air frais d'un bien sensible. Sensible quand on a faim. Boire, c'est un bien sensible. On est porté vers ça, surtout quand il y a une privation. Quand il y a un manque, comme on dit aujourd'hui, le manque. imagination, il peut devenir. Donc on ne peut pas dire c'est instinctif, donc c'est bon, attention. Ça peut être instinctif et transformé par l'imagination. Pourquoi ? Parce que toute cette vie d'appétit naturel et d'instinct est liée très étroitement à nos connaissances sensibles et à l'affectivité passionnelle. Il ne s'abstrait pas de cela. Vous voyez ? Pensez tout simplement au fait que quand vous avez très soif, ah oui, l'imagination vient, on va prendre quelque chose de bon. J'ai soif. On va se désaltérer. Ou bien quand vous avez très faim, avec un ami, vous regardez tout de suite, hein, qu'est-ce que vous allez manger de bon. C'est très important, ça. Les gens s'arrêtent là-dessus, c'est une imagination. Ils regardent, et tout est ordonné à ça. On vous donne la carte, vous imaginez, tiens, ça. Venez, c'est plus uniquement l'appétit naturel. Il y a tout point de vue artistique qui s'y mêle, avec le point de vue jouissance et de joie et tout ça. Bon, c'est très bien prendre un bon repas amical. N'est-ce pas ? C'est très très bien. Ça nous l'aide. Mais c'est plus uniquement l'appétit naturel. L'appétit naturel de l'ermite qui mange uniquement parce qu'il doit manger et pouvoir vivre et qui prend les nourritures les plus frugales pour justement que l'appétit reste dans une ascèse bien déterminée. Alors, tout est contre l'ascèse aujourd'hui, ça c'est très vrai. Tout est pour la jouissance charnelle, la jouissance sensible. Et l'art s'y mêle. Je n'analyse pas tout ça, je regarde tout simplement les fondements naturels. Alors, il y a les passions. Qu'est-ce que c'est que les passions ? Les passions, c'est une affectivité sensible à partir de nos connaissances. Et nous avons l'expérience des passions. Tout le monde, j'espère, a l'expérience de la colère. C'est très gênant, des gens qui n'ont jamais l'expérience de la colère. On peut leur marcher sur les pieds, ils ne se mettent jamais en colère. Alors on se demande s'ils sont insensibles ou s'ils sont terriblement patients et vertueux. C'est quelquefois ça se rejoint. Ça. Aristote dit que l'insensibilité, c'est le pire des vices. Et c'est vrai, ça, l'insensibilité au point de vue de la vie commune, c'est pas commode, il est de marbre. Vous avez beau le piquer, hein, il répond pas. Alors au bout d'un certain temps, vous savez pas s'il vit ou s'il vit plus. Alors c'est ça, c'est. Tandis que la colère, on sait ce que c'est. Hein. Il y a la colère et puis l'amour passionnel. Je crois que tout le monde a l'expérience de ça. Et à partir de là, on va distinguer tout de suite le concupiscible et l'irascible. Nos passions, quand je parle de passion, je parle donc toujours du sensible affectif. Nos passions se divisent en irascible et concupiscible. Et ceci, c'est très ancien. C'est Aristote qui les a distingués, et déjà Platon, et déjà peut-être les pythagoriciens, l'irascible et le concupiscible. Alors, saint Thomas a fait une étude des passions dans sa somme théologique. Donc une étude des passions, je crois qu'il est le premier théologien qui a introduit dans sa théologie l'étude des passions. Et ceci pour se demander si je pouvais dire que le Christ avait de vraies passions. Oui, c'est l'intérêt de savoir. On voit très bien ça. Alors, je vous simplement vous les nommer parce que c'est intéressant. C'est les 11 passions que saint Thomas nomme. Vous avez sensible n'est jamais à l'état pur. Il va toujours impliquer le mal. Or, le mal provoque en moi la haine. La haine, la passion haine. C'est pas mauvais, hein, la haine. La haine à l'égard des personnes est intolérable. Mais la haine à l'égard du mal, c'est bon. La passion n'est pas mauvaise. Il y a une passion haine. À l'égard du mal absent ou du mal présent. Mal présent, c'est la tristesse et la fuite. Le mal absent, la fuite. Je m'éloigne pour que le mal soit de plus en plus loin.